On va démarrer. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste une petite précision logistique. Vous avez sur votre table donc une lettre de décharge de restitution de la tablette. C'est ce qu'on doit faire avant, puisque vous savez comme moi que c'est le dernier conseil de cette mandature. Il y a une restitution de vos tablettes qui est programmée et qui se fera avec ce petit document à remplir et à compléter, accompagné de la fameuse tablette. Et tout ça, ce sera récupéré à la sortie du conseil par nos équipes de l'informatique et de la DAJ. Voilà, c'est juste cette précision logistique que je voulais vous apporter pour que ça se fasse en fin de conseil. Bonsoir, comme je disais, donc c'est le dernier conseil de cette mandature. Je dirai un petit mot là-dessus à la fin, mais je voudrais, sans plus tarder, que l'on puisse faire l'appel. Je vais demander à Monsieur Vignot-Tuquet s'il veut bien être secrétaire de séance.
Avec plaisir. Ça me permettra de tester le micro, parce qu'en 6 ans, je ne l'ai pas trop utilisé.
Donc, et je vais lancer l'appel, si vous voulez bien.
Monsieur Charles Daillot.
Présent.
C'est du nouveau matériel, ça se fera ça à chaque personne appelée. Monsieur Hervé Bayard. Présent. Monsieur Bertrand Tortigue, absent dans le pouvoir à Madame Eliane D'Arteran. Madame Marie-Christine Bourdieu. Présent. Madame Chantal Davidson. Présent. Monsieur Farid Eba. Présent. Madame Eliane D'Arteran. Présent. Madame Cathy Piquet. Monsieur Jean-Paul Gantier. Présent. Madame Catherine Dupouille, absente, donne pouvoir à Madame Catherine Piquet. Monsieur Gilles Chauvin. Présent. Madame Geneviève Dariussec, absente, donne pouvoir à Monsieur Charles Daillot. Madame Odette Di Lorenzo, absente, donne pouvoir à Madame Chantal Planchenot. Madame Anne-Marie Pita Dublanc. Monsieur Arsène Buchy. Présent. Madame Claude Taillé, absente, donne pouvoir à Marina Bancon. Monsieur Jean-Marie Badby. Monsieur Michel Neige, absent, donne pouvoir à Monsieur Hervé Bayard. Madame Chantal Couturier. Présent. Madame Muriel Croze, absente, donne pouvoir à Monsieur Antoine Vignot-Tuquet. Ça aussi, c'est une première fois. Madame Chantal Planchenot. Monsieur Guy Parella, absent. Madame Janine Lamaison. Présent. Monsieur Bruno Rouffia. Présent. Madame Pascal Horry. Présent. Madame Stéphanie Chédad. Absent. Ok. Monsieur Philippe Hérault. Présent. Madame Marina Bancon. Présent. Monsieur Antoine Vignotuc est présent. Monsieur Nicolas Tachon. Présent. Monsieur Jean-François Lagouaït. Le voilà, il arrive. Vite. Monsieur Renaud Laïtet. Présent. Monsieur Didier Simon. Présent. Madame Elisabeth Soulignac. Présent. Monsieur Renaud Lagrave, absent, donne pouvoir à Madame Elisabeth Soulignac. Monsieur Alain Bachet. Monsieur Jean-Michel Carrère. Présent. Monsieur Michael Holnet. Présent. Madame Céline Pio.
Présente. Voilà. Monsieur le maire, tant que j'ai la parole, permettez-moi s'il vous plaît une courte intervention. Je serai rapide. Vous vous rappelez que samedi matin, nous nous sommes vus tous les deux au marché pendant que je tractais dans le cadre des municipales. Je tractais donc, je distribuais le programme de la liste Le Nouvel Élan Populaire. Et vous vous êtes une fois de plus amusé à me taquiner, à taquiner le rassemblement des forces de gauche et en particulier le rapprochement avec Alain Bachet. Alors apparemment, c'est quelque chose qui vous amuse beaucoup ou qui vous obsède ou qui vous inquiète, je ne sais pas. Mais au-delà de cet aspect, je n'ai pas beaucoup apprécié votre conclusion. Permettez-moi de la dire à tout le monde. Où vous avez dit que finalement il m'a fallu 6 ans pour me rabibocher avec Alain Bachet et donc la conclusion qu'on pouvait en tirer était que je n'étais pas une femme qui couchait la première nuit. Alors au-delà du fait que c'était complètement hors sujet avec le sujet justement, que c'était particulièrement déplacé, j'ai trouvé cela assez irrespectueux, assez indigne de la part d'un élu envers une autre élue de surcroît. Et surtout, me semble-t-il, la manifestation d'une marque de sexisme. Je me demande si vous vous seriez amusé, aventuré à dire ce genre de choses si j'avais été un homme. Alors, d'abord, je tiens à vous rappeler que Vous avez peut-être la mémoire courte, mais depuis, pendant les 6 ans de mandature, Alain Bachet et moi, nous avons voté tout le temps, quasiment tout le temps pareil par rapport aux votes les plus importants. Mais d'autre part, cette remarque machiste, j'aimerais savoir ce qu'en pensent vos filles, j'aimerais ce qu'en pensent vos colistières, ce qu'en pensent les Montoises, ce qu'en pense aussi peut-être une membre du gouvernement qui est, même si votre liste est annoncé sans étiquette, qui est quand même sur votre liste, et il me semble que le gouvernement actuel essaie de lutter contre le sexisme. Alors à l'heure où les femmes qui s'engagent sont souvent victimes de ce genre de remarques et font qu'elles ne s'engagent plus, eh bien, je trouve ça très très méprisant, très irrespectueux. Je vous connais, vous allez me dire que c'était de l'humour, voilà, que j'en suis dépourvue, que c'était un humour gras, gascon, etc. Eh bien, je tiens à vous rappeler qu'il y a une différence entre l'humour et le mépris. Et donc, pour cette raison, je vous demande ce soir, de façon solennelle, en conseil municipal, de vous excuser, de me présenter vos excuses.
Je vois que ça démarre bien. Alors, simplement, juste une chose. Il est facile de sortir comme ça une phrase de son contexte, comme vous le faites. Il est évident que si cette phrase-là, sortie de son contexte, vous a blessé, il est évident que je le regrette profondément. Parce que, regardez-moi bien, nous avons mis en place beaucoup de dispositifs par rapport à l'égalité femmes-hommes. Je ne suis pas quelqu'un qui, à mon avis, brille par le machisme. On pourrait peut-être en discuter avec la déléguée de la préfecture sur les opérations que nous avons faites depuis une certaine année. Je pense que là, vous utilisez peut-être quelque chose de sorti de son contexte. C'est regrettable. Je sais que la période électorale fait que les petites phrases... Aujourd'hui, je suis un macho. Hier, parce que monsieur Olnet, sans que je lui ai rien demandé, dit que j'étais un maire bon gestionnaire, je deviens un extrémiste. Demain, qu'est-ce que... Voilà. Donc, on va se calmer un petit peu. Si cela vous a blessé... Sachez que je le regrette profondément parce que ce n'est absolument pas dans ma façon d'être. Et encore une fois, je trouve que la phrase est sortie un petit peu de son contexte, mais véritablement, si vous avez été blessé, je le regrette profondément parce que ce n'est pas ma nature. Voilà. Il faut essayer d'arrêter de prendre les petites phrases. De façon plus globale, faut-il quand même que vous soyez, je ne parle pas pour vous, aux abois, pour utiliser ce genre de choses pour essayer de critiquer? Est-ce qu'on ne peut pas, dans les 3 semaines qui nous séparent d'une élection municipale, et ensuite de l'aglo, aller sur des débats de fond? À mon avis, ça paraît important. Mais encore une fois, je le redis ici, vous sortez de ce contexte une petite phrase, très bien, je suis désolé si cela vous a blessé, parce que ce n'est absolument pas ma nature. Les gens qui me connaissent le savent très très bien. Voilà.
Bien, alors je vous remercie. Mes petites phrases sorties de... J'ai quand même quelques témoins aussi. Voilà, donc merci de vous excuser. J'en prends note.
Je me félicite de l'entente cordiale qui existe entre vous et Monsieur Bachet. Je vous propose, alors je pense que vous allez peut-être essayer d'utiliser ce dernier conseil municipal comme une tribune politique. Je vous propose de démarrer. Il y a des sujets sur lesquels d'ailleurs on peut avoir un débat de fond. Je pense que c'est ça qu'attendent les Montoises et les Montois. Puis après, voilà, on pourra débattre après ailleurs que dans cette tribune. Si vous voulez aller sur des terrains plus politiques, là on va entamer le conseil municipal et je vais vous proposer de regarder le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019. Est-ce que vous avez, dans ce procès-verbal, des choses qui auraient été mal retranscrites?
Oui, oui, oui.
Monsieur Bachet.
C'est au sujet du débat que nous avons eu concernant la délibération pour... l'hôpital, où vous marquez que Madame Geneviève Darrieussecq n'a pas pris part au vote. Or, si mes souvenirs sont exacts, ça n'a pas été précisé. Voilà. Et en plus, sur une délibération, je refuse de prendre part au vote, on me fait marquer que je m'abstiens. Alors, voilà. Donc, il y a des choses qui ne vont pas et qui sont très mal retranscrites. Moi, dans ce que j'ai entendu lors du débat, il n'a jamais été dit que Madame Darrieussecq ne prenait pas part au vote. Voilà, ça c'est une chose. Et moi, j'ai bien dit que je ne prenais pas part au vote sur une délibération qui est située à la page 20. Et on doit être traité de la même façon.
Alors, j'entends ce que vous me dites. Je me souviens bien que vous ayez dit ça, si ce n'est que juridiquement, ce qu'il m'est dit par les services, c'est que c'est considéré comme une abstention quand on ne prend pas part au vote.
Et alors, pourquoi il est marqué que Mme Darrieussecq, qui a pris part au vote, il est bien marqué qu'elle a pris... Je répète, je relis ce qui est écrit. Mme Geneviève Darrieussecq, ne prenant pas part au vote. Il y a un truc qui n'est pas normal.
Voilà. Par symétrie, vous êtes au même niveau. Vous avez dit que vous ne preniez pas part au vote, Mme Darrieussecq, qui nous l'a fait savoir. Et donc, ce sera considéré comme une abstention pour les deux. On le rectifiera, c'est pas un sujet.
Mais ça... Il aurait dû le préciser, monsieur le maire, puisque vous aviez son mandat. Donc moi, je considère qu'elle a voté cette délibération. Ce qui est tout à fait différent. Sinon, on ne retranscrit pas ce que nous avons décidé.
Ce que nous notons, en effet, c'est que vous ne prenez pas part au vote, que d'un point de vue juridique, c'est une abstention, mais qu'on notera, si vous le voulez, en modification, le fait que vous notifiez que vous ne voulez pas prendre part au vote. Voilà.
La rectification pour Mme Darrieussecq.
Et en ce qui concerne Mme Darrieussecq, elle ne souhaitait pas prendre part au vote, et ce sera considéré et notifié comme une abstention, juridiquement. Voilà, c'est la même chose que vous.
Vous ne l'avez pas précisé quand la délibération a été prise.
En tout cas, sa volonté, elle ne prend pas part au vote.
Donc quand on a des mandats, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, quand on a des pouvoirs, je retranscris le vote qui m'a été demandé par la personne qui m'a donné pouvoir. Là, en l'occurrence, vous ne l'avez pas fait. Moi, je considère que Mme Darrieussecq a pris part à cette délibération.
Vous considérez ce que vous voulez. De toute façon, on va soumettre ce procès-verbal au vote et vous êtes tout à fait en mesure de pouvoir voter contre. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous voudriez nous interpeller sur la retranscription de ce procès-verbal? Pas d'autres sujets, donc je vous propose de le soumettre au vote, qui est contre. Donc, Madame Pio, une voix. Monsieur Bachet, une voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, c'est voté à la majorité. J'ai été amené à prendre des décisions dans la période entre le 5 décembre et le 14 février. Est-ce qu'il y a des sujets qui appellent des remarques de votre part? Là, il s'agit simplement de prendre acte, c'est une information, des décisions que j'ai été amené à prendre dans mon mandat. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous voudriez, monsieur Leitet?
Juste une précision, vous marquez achat de prestations de relations publiques et de communication à la SAS Stade Montois Rugby Pro, il n'y a pas de montant. Peut-être qu'il y a une raison.
Oui, non, c'est ni plus ni moins que les conventions qu'on a passées avec les montants qui sont inchangés d'ailleurs depuis l'année dernière. Donc, ça fait référence à la convention. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de montant, est-ce que c'est quelque chose qui doit être rectifié ou pas?
Pas forcément.
S'il faut, on le rajoutera, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous vouliez souligner? Non, pas d'autres points. Juste, je voulais souligner un point qui est... Vous voyez que la première décision, elle concerne le golf, donc c'est simplement pour bien vous signaler, je parle sous contrôle de Bruno Ruffia qui fait l'interface avec nous sur le golf, que les travaux continuent sur le golf de Pessourda, puisque nous avons à assumer notre rôle de propriétaire de cette infrastructure. C'était un engagement donc sur la partie notamment de l'arrosage. Et puis il y a une autre décision qui est prise ensuite. Vous voyez qu'un marché de 220 000 euros a été signé avec Ineo. Là, il s'agit également du déploiement des caméras de vidéoprotection, puisqu'on doit avoir aujourd'hui 17 caméras en cœur de ville, une quarantaine à l'extérieur. Et donc on a un déploiement qui se fait de 3 caméras de vidéoprotection supplémentaires qui seront placées en accord avec la police nationale, au niveau de la Société Générale, au niveau du Sablard et au niveau du Midou, c'est dans le cadre d'un déploiement pluriannuel. Le montant de 220 000 euros ne correspond pas forcément que à l'emplacement de ces caméras. Il a fallu aussi investir sur le serveur qui était obsolète et qui ne pouvait plus fonctionner de manière opérationnelle, puisque aujourd'hui on a changé ce serveur et dernier cri et nous permet d'aller jusqu'à une capacité de 64 caméras. Donc voilà, c'était juste une petite précision, parce que le montant peut paraître élevé, mais ce n'est pas uniquement les caméras, c'est aussi le serveur qui va avec. Voilà. Donc là, il s'agit d'une information, et je vais passer la parole à Cathy Piquet. Là également, c'est juste pour prendre acte d'un rapport qui est relatif au recours administratif préalable lié au stationnement payant. Cathy Piquet. Micro.
Merci. Au réel avec paiement immédiat au début du stationnement, forfaitaire, forfait post-stationnement en cas d'absence ou d'insuffisance d'acquittement de paiement immédiat. Ce tarif forfaitaire est déduit de la somme déjà payée le cas échéant. Ces FPS sont établis par des agents municipaux habilités pour contester l'avis de post-stationnement. Les usagers doivent introduire un recours administratif préalable obligatoire auprès de M. le maire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis. La gestion de ces recours est réalisée en interne par les ASVP. Conformément à ce que prévoit le Code général des collectivités territoriales, un rapport d'exploitation des RAPO établi chaque année avant le 31 décembre de l'année suivante est présenté au conseil municipal suivant. La forme et les contenus ici présentés correspondent aux prescriptions de l'annexe 2 à l'article R2333-120-15 du CGCT. Le rapport comporte les informations suivantes. Premièrement, dénomination de la commune. Deuxièmement, le cas échéant, dénomination du tiers contractant, auteur du rapport. Troisièmement, moyens humains, nombre d'équivalents temps plein consacrés au traitement des recours. Quatrièmement, moyens financiers consacrés au traitement RAPO. Cinquièmement, indicateurs relatifs au traitement des RAPO. Vous avez le tableau que je ne vais pas quand même vous lire. Sixièmement, analyse des motifs d'irrecevabilité des recours, de rejet des recours ou d'annulation de l'avis de paiement initial. Voilà, Monsieur le maire, ce rapport.
Merci, Cathy Piguet. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport qui se présente chaque année ? Pas de questions particulières. Donc là, c'était juste une information. La délibération suivante concerne notre campagne de ravalement de façade. Je vais passer la parole à Hervé Bayard, notamment pour l'attribution sur 3 ou 4 dossiers concernant ces ravalements de façade en centre-ville. Hervé Bayard.
Merci, Monsieur le maire. Donc, en effet, régulièrement, nous adoptons des délibérations qui visent à apporter notre soutien au ravalement de façade en centre-ville. C'est en 2009 que nous avons mis en place ce dispositif visant à inciter les propriétaires à ravaler les façades dans un périmètre qui comprend la Madeleine, la rue Gambetta et Frédéric Bastiat et également rue des Cordeliers. Donc là, il s'agit de 4 dossiers. 3 concernent sont situés rue Gambetta et 1 est situé rue Vléric. Donc le premier, c'est au 34 rue Léon Gambetta, appartenant à Monsieur Jean-Michel Lafontan. Le montant des travaux, 17 570 euros, subvention 5 271 euros. Deuxième immeuble, 6 rue Gambetta, appartenant à Monsieur Trémouille. Ça, c'est un ravalement qui est obligatoire, puisque nous avons 2 dispositifs, un dispositif incitatif, et puis nous avons également un dispositif coercitif, que nous avons adopté l'année dernière. Donc concernant ce dossier, il s'agit de travaux d'un montant de 29 804 euros, une subvention à 8 941 euros. Troisième dossier, 33 rue Léon Gambetta et 71 rue Les Bazeilles, appartenant à Madame Bortolussi et puis également à la SCI Charlimau. Donc les travaux, 46 341 euros et subvention 11 040 euros. Le dernier dossier concerne 12-14 rue Vléric, appartenant à Jérémy Bellon. Travaux 49 416 euros et subvention 12 000 euros. Donc, rien que dans cette délibre avec ces 4 dossiers, c'est 143 131 euros de travaux pour une subvention de 37 252 euros.
Merci Hervé Bayard. Est-ce que vous avez des questions sur cette campagne de ravalement de façade ? Pas de questions particulières ? Donc vous le savez, c'est un dispositif qui est intégré dans l'opération Cœur de Ville. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est au total 54 dossiers qui ont été reçus depuis le début de cette opération, dont 11 dans le champ obligatoire. C'est presque 500 000 euros de subventions versées depuis le début sur plus de 1 600 000 euros de travaux. Le dernier exemple en date assez visible est la pharmacie Noinski, par exemple, qui est devant notre office du tourisme. Et on voit encore quelques échafaudages qui sont rue Gambetta. Qui est contre cette délibération ? C'est le numéro 4. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, c'est voté à l'unanimité. Je vais passer la parole à Farid Eba pour une autre bonne nouvelle, à savoir un site un peu stratégique dans la continuité de ce que nous de la programmation sur la plaine des Jeux, à l'entrée de la plaine des Jeux notamment, et de l'Aïroir. Farideba.
Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne l'achat par la ville d'une portion de terrain de 155 mètres carrés environ, appartenant à Monsieur et Madame Timon et Quillet, qui ont accepté de céder ce terrain pour la somme de 20 000 euros. Cette acquisition de foncier permettra, grâce à un ouvrage à réaliser, vous avez le plan en annexe, d'élargir l'entrée afin de la rendre plus visible, mais surtout plus sécurisante sur le chemin des sports. Alors bien sûr, d'autres travaux seront réalisés de l'autre côté, côté droit, en venant du rond-point. Surtout lorsque l'achèvement du bassin d'orage sera réalisé. Alors je rappelle que nous nous appuyons sur un plan guide réalisé par un cabinet d'architectes urbanistes et programmistes avec un phasage des opérations. Alors nous avons commencé par la construction de vestiaires neufs, le deuxième est en cours, qui sont en miroir, en façade des terrains, ainsi que l'aménagement des terrains de sport. Alors dès que les travaux du bassin d'orage situé devant le terrain numéro 1, c'est le terrain de football, seront terminés, une poche de stationnement de 80 places environ sera réalisée aux abords de ce même terrain numéro 1. Et ensuite, une piste cyclable et chemin pédestre longera le chemin des sports et sera connectée via le tennis de la Liroire à la nouvelle passerelle qui sera prochainement opérationnelle, alors normalement début avril. Et qui, bien sûr, de l'autre côté de la rivière, sera accessible au quartier de Barbe d'Or, où d'autres aménagements sont prévus, et notamment du stationnement et des cheminements. Merci, Monsieur le maire.
Merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette acquisition que vous situez bien, j'imagine? C'est la Cressonnière qui fait l'angle et qui fait que c'est quand même accidentogène et problématique, à la fois quand on sort du site de la plaine ou quand on y entre par l'autre côté. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette opération? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc voilà, c'est ce qui nous permettra pour terminer d'élargir un peu. Et si vous pratiquez ce chemin aujourd'hui, c'est vrai qu'il est en mauvais état parce que nous attendons... Il faut attendre que les travaux de la régie des eaux et du bassin d'orage soient terminés sur la droite notamment. C'est donc voté la 5 à l'unanimité. Je vais passer la parole à Hervé Bayard parce qu'il y a une série de sessions et de transferts et ensuite il y aura le bilan de clôture de la SATEL. Donc Hervé Bayard concernant le terrain Champollion.
Très bien, Monsieur le maire, merci. Alors on va traiter donc les délibérations 6 et 7 puisqu'il s'agit donc du lotissement communal que nous avons développé qui se trouve dans le quartier du Père Rouat. Il s'agit cette fois-ci à travers ces deux délibérations d'acter la cession de deux terrains. Donc le terrain B2 d'une superficie de 277 mètres carrés qui sera vendu au prix de 24 930 euros. Ce terrain est vendu à Isabelle Dess, qui est domiciliée à Mont-de-Marsan. Et puis le terrain B4 dans le même lotissement qui est vendu à Julie Lamotte pour la somme, un terrain de 278 mètres carrés pour la somme de 25 020 euros.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Hervé Bayard.
La délibération numéro 8. Donc là, il s'agit d'intégrer dans le domaine public une voirie suite à la cession des logements de fonction du Baradet. Donc jusqu'à présent, cette voirie était dans le domaine privé de la ville. Et comme elle est à usage public, il s'agit de l'intégrer dans le domaine public communal.
Quatre questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité. Hervé Bayard.
Dans cette délibération numéro 9, il s'agit tout simplement de mettre fin à une opération d'envergure qui est née en 2002, opération intitulée Caserne Bosquet, puisqu'il s'agissait donc de réaménager la caserne Bosquet. Sur ce lieu ont été créés 259 logements, dont 167 logements locatifs sociaux et 76 logements pour étudiants. Cette opération a été réalisée grâce au concours de la ville de Mont-de-Marsan, du conseil départemental des Landes, de l'agglomération et puis également avec une participation du conseil régional d'Aquitaine. Cette opération d'aménagement avait été confiée à la SATEL. Donc à présent, il s'agit de mettre fin à cette opération, sachant qu'il reste encore un terrain qui sur lequel n'a pas été positionné de construction. Ce terrain a été acquis par la ville de Mont-de-Marsan il y a de cela 2 ans. L'ensemble de cet aménagement a été réalisé pour une valeur de 3 500 000 euros. Et donc, à l'issue de cette opération, il reste un excédent de 9 467 euros qui sera reversé à la ville de Mont-de-Marsan.
Est-ce que vous avez des remarques sur cette opération qui avait été initiée en 2002, Monsieur Bachet ?
Pas une remarque, mais pour nous féliciter qu'en 2002, il y ait des gens qui aient pris cette décision d'aménager ce site. Je pense que c'est à saluer. C'était visionnaire.
Je suis d'accord avec vous. Je voudrais relativiser la décision qui est parfaite. Hein, c'est pas le sujet. On parle d'excédent. Hein, donc c'est une opération d'aménagement qui livre un excédent de 9 000 euros à la ville. Ce qu'il faut savoir, c'est l'excédent. Il est quand même déduit d'une subvention d'équilibre qu'a versé la ville de presque 1 million d'euros. C'est-à-dire que cette opération, et c'est normal, a coûté à la ville 900 000 euros à peu près, parce qu'il a fallu bien évidemment équilibrer des choses qui n'avaient pas forcément été prévues, et c'est souvent comme ça dans ce type d'opération, soit des aménagements non prévus, soit des cessions aussi qu'on a fait à l'euro symbolique, donc des moins-values pour XL Habitat, ou plus récemment, sur les derniers terrains forcément, entre les estimations et les projections faites en 2002 et la réalité de la valeur de ces terrains-là, il a fallu les céder avec un petit peu de moins-value. Donc, juste pour... une opération mûrement réfléchie, comme il y en a eu d'autres depuis. Je voulais juste relativiser le côté excédentaire. Voilà, c'est une opération sur laquelle la collectivité et la mairie a eu à verser entre 900 et 1 million d'euros. Voilà. Et aujourd'hui, on a pratiquement tout ce site qui est réhabilité, recyclé et réemployé, à l'exception donc d'un terrain de 1500 m² qui reste à être vendu. Sur cette délibération, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. Je passe la parole à Hervé Bayard à nouveau. Ça, c'est sur le plan d'exposition au bruit.
Donc, dans cette délibération, il s'agit tout simplement de solliciter le préfet de façon à ce qu'il prenne une dérogation suite à l'adoption du nouveau PEB, puisque jusqu'à présent, cette dérogation existait, mais elle était attachée au PEB précédent. Et étant donné que les périmètres ont été modifiés, il s'agit de prendre une nouvelle dérogation. Mais pour cela, il faut que le préfet soit sollicité, de façon tout simplement à ce que nous puissions poursuivre la requalification urbaine des quartiers concernés, donc c'est-à-dire essentiellement du quartier du Père Rouatte.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le PEB ? Pas de questions particulières. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. C'est voté donc à l'unanimité. Ça, c'était la délibération numéro 10. On passe à la 11. Je vais passer la parole à Chantal Couturier. Il s'agit de nous décrire la CLECT, la commission d'évaluation des charges que l'on transfère quand on passe une compétence. Là, en l'occurrence, de la ville de Mont-de-Marsan et de Saint-Perdon, puisqu'on a transféré la compétence jeunesse à l'agglomération, donc il y a des jeux d'écriture qui concernent exclusivement ces deux communes. Chantal Couturier.
Alors, voilà, c'est bon. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est le rapport de la commission d'évaluation des charges transférées du 27 janvier 2020. Le conseil communautaire de Mont-de-Marsan agglomération a approuvé le 30 septembre 2019 la modification des statuts de la communauté d'agglomération qui comprend notamment l'exercice de la nouvelle compétence facultative « Action en faveur de la jeunesse ». La commission La CLECT donc s'est réunie le 27 novembre 2019 pour déterminer le coût du transfert de cette compétence et l'impact sur l'attribution de compensation des communes concernées, à savoir Mont-de-Marsan et Saint-Perdon. Au total, le montant du transfert des charges s'élève à 167 315,61 €, dont 153 291,27 € pour le transfert du Bige de Mont-de-Marsan. Cependant, des ajustements doivent être gérés sur certains postes en raison de l'oubli de recettes CAF pour le foyer ado de Saint-Perdon et d'une dépense de communication pour le Bige. La commission, donc la CLECT, s'est réunie à nouveau donc le 27 janvier 2020 pour déterminer le coût du transfert de cette compétence et l'impact sur l'attribution de compensation des communes concernées. Donc au total, le montant de transfert de charges est modifié pour s'élever à 160 774,51 €. Ce transfert doit donner lieu à une actualisation des attributions de compensation à compter du 1er janvier 2020, qui est représenté donc dans le tableau ci-après. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver donc l'évaluation de ces attributions de compensation, suivant le tableau présenté ci-après.
Merci, Chantal Couturier. Est-ce que vous avez des remarques sur les montants ou sur cette délibération numéro 11, donc transfert de la compétence jeunesse pour qu'elle ait un rayonnement communautaire, ce qui nous permet d'avoir maintenant une offre sur les 18 communes au travers des activités liées à la jeunesse, café, musique et autres. Est-ce qu'il y a des remarques ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention, Madame Pio. Excusez-moi, Madame Pio, je peux vous demander le
motif ?
Oui, ouais, s'il vous plaît.
C'est, vous savez bien que le transfert des compétences, je trouve qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup trop. Et donc, si je ne suis pas contre l'idée de coopération entre les communes, de mutualisation, bien sûr, mais voilà, pour être toujours logique par rapport au fait que tous ces transferts de compétences font qu'il n'y a plus de démocratie locale.
Si je puis me permettre un commentaire, Monsieur Bachet, sur... Vous...
Il faudrait simplement remarquer que les votes de Madame Pio et les miens sur ces sujets-là sont exactement les mêmes. J'ai toujours eu la même position. J'ai toujours voté contre les transferts, mais à partir du moment après où administrativement on nous y oblige, c'est pour ça que je vote la délibération telle que vous nous l'avez présentée. Puisque... Et je ne vois pas ce qui peut gêner. Mais vous aviez dit qu'il fallait être, voilà, il fallait être correct ce soir, soyez-le. Montrez l'exemple. Ça serait bien. Mais ça serait bien. Montrez-le.
Donc je note une abstention et l'ensemble des voix pour ensuite. Donc c'est voté à la majorité. Je vous en remercie. Chantal Couturier, qui garde la main ? Là, il s'agit de la carte achat puisqu'il y a un changement de nominatif sur une carte qui nous permet de faire des achats directs.
Oui, alors il s'agit ici d'une modification des modalités d'exécution de la carte d'achat proposée par la Caisse d'épargne. Bon, par délibération du 23 septembre 2019, la mise en place d'une carte d'achat avait été approuvée. Donc, dans son principe de fonctionnement, elle était attribuée à Madame Erel Boulier. Donc, suite au départ de Erel Boulier, il convient donc de modifier son attribution et de l'attribuer maintenant à Madame Sandrine Persillon, secrétaire du cabinet. Voilà, tout simplement.
Merci. On a vu cette délibération à l'aglo, il me semble également. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, c'est voté à l'unanimité. J'ai oublié, excusez-moi, je vais me faire taper sur les doigts, j'ai oublié de saluer la présence de nos services civiques qui sont là. Eliane me l'a rappelé. Et qui, dans le cadre de leur expérience service civique, assistent à notre conseil municipal et je les salue. Délibération numéro 13. Donc là, je vais passer la parole à ma voisine Chantal Davidson. Il s'agit des bourses que l'on attribue à l'école de musique et de danse pour l'année scolaire 2019-2020. Chantal Davidson.
Merci, monsieur le maire. Donc, la ville de Mont-de-Marsan attribue des bourses aux élèves montois du conservatoire des Landes. Chaque année, donc, ces bourses sont attribuées. Elles sont calculées suivant le quotient familial établi par la caisse d'allocation familiale. Et donc, vous avez le tableau en dessous qui vous donne donc les montants des quotients familiaux. Et ça peut aller de 10% à 100%. Donc, la commission culture et patrimoine a examiné les dossiers de demande de bourse pour les enfants de l'antenne de Mont-de-Marsan. Et donc, il y a eu deux personnes, deux familles dont la prise en charge est égale à 10%, une famille dont la prise en charge est égale à 25%, quatre prises en charge à 50% et trois à 75%. Il n'y a pas eu de prise en charge à 100% cette année. Voilà, donc on vous demande d'approuver ce versement des bourses.
Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération ? Pas de remarques. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je veux juste en profiter pour dire que cette philosophie, elle est la nôtre dans d'autres services. C'est pas forcément de faire de la gratuité pour tous, mais c'est par contre faire de la gratuité ou de l'aide pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc c'est, voilà, c'est important et ça se retrouve ici dans la politique que nous avons sur l'école de musique. Donc cette délibération numéro 13 est votée à l'unanimité. Je vais demander à Pascal Horry de nous présenter la délibération numéro 14 sur l'amicale des quartiers.
Oui, merci, monsieur le maire. Chaque année, la ville de Mont-de-Marsan verse des subventions aux associations qui œuvrent sur le territoire. Toute subvention supérieure à 23 000 euros doit faire l'objet d'une convention d'objectifs. Donc, il vous est demandé, pour l'amicale des fêtes des quartiers, dans la mesure où il s'agit d'une subvention de 47 500 euros de subvention de fonctionnement, de bien vouloir autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention d'objectifs que vous avez jointe à la délibération.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Pas de questions, monsieur... Monsieur Bachet,
ça fait combien de temps que cette subvention est à 47 500 euros ?
Sincèrement, j'ai pas idée. Ce que je sais, c'est que globalement, les 500 associations que nous soutenons depuis, en tout cas, que je m'occupe des comptes, nous avons pas baissé les subventions sur le volume global, ce qui est plutôt un exploit au vu du shoot et de la violence des baisses de dotation d'État que nous avons eues par le précédent gouvernement. Voilà ce que je puis vous dire. Mais après, je pense en effet que ces subventions-là ont dû être maintenues, pas augmentées, mais pas baissées non plus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette subvention ? On a une série comme ça de subventions, puisque au-delà de 23 000 euros, on est obligé de les passer en délibération. S'il n'y a pas de questions, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Jean-Paul Gantier, il s'agit d'attribuer une subvention pour notre COS.
Merci, monsieur le maire. Donc le COS va recevoir une subvention de fonctionnement de 14 800 euros et une subvention liée à la mise à disposition d'une personne qui représente 36 000 euros environ. Ces sommes sont supérieures à 23 000 euros, comme cela vient d'être rappelé. Donc, il est nécessaire de passer cette opération dans l'Assemblée délibérante. Par ailleurs, comme il y a une mise à disposition de personnel, il est prévu avec la loi de février 2007, qui était une loi de modernisation de la fonction publique, de reverser ces sommes à la ville dans des conditions qui doivent être fixées dans une convention qui est jointe en annexe. Donc, il vous est demandé de décider du versement d'une subvention de fonctionnement de 14 800 euros et de prévoir un reversement de 36 471 euros à l'association COS. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions sur le COS, monsieur Bachet ?
Simplement une remarque, vous avez fait référence au précédent gouvernement. Moi, je vais faire référence à ce gouvernement-ci. S'il avait un peu plus choyé les collectivités locales, on aurait pu certainement mieux et plus répondre aux besoins qui s'expriment dans les associations, au niveau des associations sportives et culturelles, et répondre aux besoins des populations.
Voilà, on va y arriver. C'est pour ça qu'il faut que je reste 6 ans de plus pour maîtriser le micro. Je ne sais plus ce que vous avez dit, pardonnez-moi. Juste sur le COS, il y a également la mise à disposition et de la bodega. Et puis nous avons aussi ajouté au COS, hein, le COS c'est un peu le CE de notre collectivité sur la partie mairie, nous avons ajouté aussi les cotisations liées au CNAS qui permettent justement d'augmenter les avantages pour le personnel. Et je me réjouis de voir que même si au début c'était un peu compliqué parce qu'il fallait aller sur le site, aller chercher un chèque cadeau, une réduction sur des vacances ou autre, on voit que maintenant on monte en charge, on a des référents dans différents services qui permettent justement à notre personnel d'utiliser ces avantages mutualisés du CNAS. Donc là, pour le coup, je ne sais pas si on a augmenté, mais en tout cas on a maintenu. Et puis on a augmenté les avantages notamment pour notre personnel puisque nous avons mis en place le CNAS. Sur cette délibération numéro 15...
Maire, deux petites secondes, si vous permettez. Certes, on peut se féliciter que vous ayez fait ça, mais on peut se rappeler aussi que vous leur avez quand même pas mal pris sur leur acquis sociaux, notamment en leur supprimant six jours de congé.
J'espère qu'on ne va pas faire durer la partie de ping-pong toute la soirée. Sur cette délibération numéro 15, qui est contre, et là je suis sûr que vous allez voter pour, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Farid Eba pour nous parler de l'étoile sportive.
Ah, c'est bon. Merci. Merci, monsieur le maire. Oui, cette délibération concerne l'attribution de subvention à l'étoile sportive montoise, Omnisport. L'étoile sportive montoise Omnisport, c'est le deuxième club Omnisport de la ville, avec plus de 1000 licenciés environ, 7 sections. Donc, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 sur les relations des citoyens avec l'administration et du décret du 6 juin 2001, dès lors que le montant d'une subvention versée à une association dépasse 23 000 euros, une convention d'objectifs doit être conclue entre les parties, vous l'avez en annexe. Le projet de convention qui est joué en annexe, voilà. L'association concernée est la suivante, Étoile Sportive Montoise, pour un montant alors de 98 000 euros de subvention de fonctionnement, ainsi que 2 283 de subvention de mise à disposition de personnel. Voilà, merci, et je vous demande d'approuver cette délibération.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette subvention? S'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Ensuite, pour Pascal Horry, la délibération 17, il s'agit de l'orchestre Montois.
Oui, merci, monsieur le maire. Donc, toujours le cas d'une convention d'objectifs assignée au-delà d'une subvention supérieure à 23 000 euros, il s'agit en l'espèce de l'orchestre Montois à qui la ville octroie une subvention de fonctionnement de 39 700 euros. Il vous est demandé d'autoriser monsieur le maire ou son représentant de signer la convention d'objectifs et de moyens.
Est-ce que vous avez des questions sur cette subvention? S'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Simplement vous signaler, j'ai pu assister à différentes réunions et répétitions de cet orchestre montois qui a recruté et gagné beaucoup de membres. Là, depuis un an ou deux, ça repart bien, surtout depuis un an avec le nouveau chef. Il y a une transition à gérer au niveau du chef. Et avec notamment aussi des choses qui se passent très très bien dans les connexions. On a parlé tout à l'heure de l'école de musique. Donc la relation avec l'école de musique du conservatoire marche de mieux en mieux. Ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles le chef et les présidents arrivent désormais à renforcer, à recruter de plus en plus pour cet orchestre. Sur cette délibération, la 17, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Je passe la parole à Gilles Chauvin, c'est pour le tableau de toutes les subventions.
Bon. Ça marche, oui, très bien. Merci, monsieur le maire. Comme tous les ans, le tableau général des subventions données aux associations est proposé à votre délibération, à votre vote. C'est en application du chapitre 65, chapitre 204 du budget principal de la ville, et ce, après avis de la commission des finances personnelles et affaires générales qui a eu lieu le 17 février 2020. Vous avez en annexe la récapitulative de toutes les subventions qui ont été données. On a repris également celles pour lesquelles vous avez déjà voté. Dans le tableau général, vous verrez que pour les associations culturelles, il y a 110 500 euros qui ont été alloués. Pour les associations Solidarité, 61 025 plus 36 471 pour du personnel. Pour les associations sportives, 796 505 et 35 529 de personnel. Le total des subventions versées par la ville de Mont-de-Marsan aux associations est d'1 055 030 euros pour l'année 2020. Et c'est vous est proposé à votre vote.
Gilles. Éteins ton...
Pardon.
Allez-y, Mme Soulignac.
Juste une question. Concernant le... Il y avait un petit budget qui était réservé pour les projets. Qu'en est-il? Enfin, il me semblait que d'habitude, il apparaissait là. Ah, pardon.
Excusez-moi, on l'a voté la dernière fois, c'est à part des subventions. On se garde une petite réserve budgétaire pour les projets qu'on vote deux fois par an. Donc c'est déjà passé.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération? Je vous propose donc de la soumettre au vote. Qui est contre? C'est la 18. Qui s'abstient? Donc c'est voté à l'unanimité. Je passe la parole à Cathy Piquet. Il s'agit d'aborder sur la délibération 19 et 20, notamment des admissions en non-valeur ou des créances éteintes. Cathy Piquet.
Merci, Monsieur le maire. Le trésorier principal de Morne-Marsan Agglomération transmet périodiquement des états d'admission en non-valeur concernant certaines recettes dont il n'a pu enregistrer le recouvrement. En l'espèce, il s'agit de l'impossibilité de recouvrir certaines recettes datant des exercices précédents sur le budget annexe pompe funèbre pour un montant total de 12 745,51 €. Les crédits correspondants sont inscrits à l'article 65-41, créances admises en non-valeur. Il est proposé à l'Assemblée l'admission en non-valeur de ces recettes, après avis de la Commission Finances du 17 février 2020. Et la 20, c'est la liste de présentation des créances éteintes. Le TP d'agglomération nous a informé qu'il n'a pu procéder au recouvrement de certaines recettes datant des exercices précédents. Budget annexe pompe funèbre municipale, 1 626,50 €. Le recouvrement de ces créances est impossible. Les crédits correspondants seront inscrits à l'article 65-42, créances éteintes. Avis de la Commission des Finances du 17 février 2020. Voilà pour les deux délits.
Merci, Cathy Piquet. Donc la 19, c'est encore récupérable, entre guillemets, et la 20 sont des créances qui sont constatées et définitivement éteintes. Et on est sur les pompes funèbres. Sur la 19, qui est contre, qui s'abstient, donc c'est voté à l'unanimité. Sur la 20, qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Cathy Piquet, pour la campagne de recensement.
Merci, Monsieur le maire. Bon, depuis 2004, le maire est chargé d'organiser le recensement annuel de la population. À cet effet, il procède au recrutement et à la désignation d'agents recenseurs. Donc, pour la campagne de recensement 2020, il est donc proposé de faire appel à 7 agents recenseurs, soit recrutés spécialement à cet effet, soit parmi les agents de la ville. De fixer leur mode de rémunération sur les bases suivantes, 4 € par logement recensé, 210 € d'indemnité forfaitaire de déplacement, après avis de la Commission Finances du 17 avril 2020. Donc je vous demande de bien vouloir approuver cette délibération. Merci.
Merci, Catherine Piquet. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? C'est la 21, donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci, Jean-Paul Gantier, pour les tableaux d'emplois communaux.
Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit d'actualiser les tableaux des emplois communaux. On a l'habitude de cette délibération. Donc, transformation d'un emploi au 1er février 2020, un emploi à temps complet d'adjoint technique principal de première classe est transformé en un emploi à temps complet d'adjoint technique suite à un départ en retraite. Ensuite, création d'emploi au 1er mars 2020. Il s'agit d'un emploi à temps non complet à hauteur de 21 heures hebdomadaires de technicien territorial. Il s'agit du jeune homme qui s'occupe d'aider les personnes sur les problèmes d'informatique au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Et puis, c'est tout? Bon, c'est tout.
Est-ce qu'il y a des questions sur la 22? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les mises à disposition, Jean-Paul.
Merci, Monsieur le maire. Bon, donc là, vous avez la liste des emplois qui sont mis à disposition. Il y en a 17 au total, 17 personnes. Il y en a beaucoup pour le sport qui sont à 10%. Il y en a 4 personnes qui sont des personnes d'entretien. On a quelqu'un qui donne des cours et à l'hôpital Lainé. Et puis, on a quelqu'un qui s'occupe des TAP. Voilà pour les 17 personnes. Et ça fait partie des choses sur lesquelles l'Assemblée délibérante doit être informée.
Merci. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ? Donc, sur cette délibération, la 23, il s'agissait simplement d'en prendre acte. Je vais passer la parole à Marie-Christine Bourdieu pour la dernière délibération sur un ouvrage qui aura suivi notre mandat, parce que j'ai l'impression d'en parler à tous les conseils municipaux. Donc, c'est la passe à poisson.
Merci, monsieur le maire. Par délibération en date du 26 septembre 2017, le Conseil communautaire de Mont-de-Marsan Agglomération a approuvé la modification des statuts de la communauté d'agglomération visant à exercer la compétence obligatoire gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article 211.7 du Code de l'environnement. Dans le Code général des collectivités territoriales, il est prévu que le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert. La ville de Mont-de-Marsan dispose d'un ouvrage hydraulique passe à poisson situé au confluent de la Douze et du Midou. Au vu des dispositions du CGCT et du Code de l'environnement précité, il s'avère nécessaire que cet ouvrage hydraulique soit mis à disposition de Mont-de-Marsan Agglomération. Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. Mont-de-Marsan Agglomération assume à compter du transfert l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit d'aliénation du bien mis à disposition, la commune restant propriétaire du dit bien. Il nous est donc demandé d'approuver la mise à disposition de l'ouvrage passe à poisson nécessaire à l'exercice de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations entre Mont-de-Marsan Agglomération et la commune de Mont-de-Marsan, et d'autoriser monsieur le maire donc à signer le procès-verbal de mise à disposition entre Mont-de-Marsan Agglomération et la commune de Mont-de-Marsan.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette passe à poisson ? Pas de questions particulières. Donc je vous propose de le soumettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Nous avons, une fois n'est pas coutume, fait ce conseil à une vitesse éclair, donc il y a encore un peu de temps. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole pour s'exprimer ? Alors, avant de lever la séance, je vous rappelle donc qu'il y a ce petit document à remplir et de passer voir nos services pour restituer vos tablettes. Juste un petit mot pour marquer quand même la fin de cette mandature, vous dire que c'est un moment particulier. Notre dernier conseil municipal en ce mandat, je voudrais vous remercier, alors je voudrais remercier au nom de tous les élus, quand je dis tous les élus, c'est opposition et majorité, les oppositions et la majorité, les salariés de nos services, je me tourne vers vous, voilà, nous sommes dans une belle collectivité, avec une ville, une agglomération, et vous avez fait tourner cette belle mécanique, je tenais au nom de tous les élus à vous en remercier. Je voudrais saluer également les élus, tous les élus, je l'ai dit, les oppositions et la majorité, avec une pensée particulière pour celles et ceux qui ne seront plus là en avril prochain, quelle qu'en soit la raison. Merci de votre assiduité. Je veux saluer également la tenue correcte de nos débats. Nous pouvons ne pas être d'accord. J'ai tenu à maintenir un débat apaisé, républicain et libre. Vous noterez que je n'ai jamais coupé la parole. Tout le monde peut avoir des sensibilités, et toutes les sensibilités ont pu s'exprimer. Et je vous remercie collectivement d'avoir pu enrichir le débat. Je veux saluer enfin également à distance vos proches, vos familles, parce que être un élu local, c'est aussi composé avec un emploi du temps professionnel, parfois et privé, et d'élu. Et je sais ce que ça peut représenter. Dans quelques semaines, l'exécutif changera. Donc je souhaite aux femmes et aux hommes qui briguent un nouveau mandat d'obtenir ce qu'ils espèrent. Je souhaite surtout, quelle que soit l'issue du prochain scrutin, que celles et ceux qui n'y parviennent pas et qui ne parviennent pas à cet objectif puissent relativiser. Le mandat municipal est, semble-t-il, le mandat préféré des Français. Il est une expérience de vie exceptionnelle. C'est le maillon de la démocratie le plus en prise avec le terrain, avec la vraie vie, avec les citoyens. Ce n'est pas un mandat hors sol, Ce mandat nécessite de l'engagement, du temps, de l'humilité. Et je peux ici vous dire à toutes et à tous, opposition et majorité, que malgré nos différences, nous avons pu mesurer la volonté que vous avez eue de travailler pour votre commune, le courage de s'engager publiquement. Et donc, j'encourage tout le monde à se déplacer ou à faire se déplacer les concitoyens pour aller voter les 15 et 22 mars. Je vous souhaite une bonne soirée.